Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez l'émission d'information locale qui commence et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, le lauréat du prix du président de la République du concours Lépine qui est rennais, une interview avec les cadets de Bretagne pour annoncer l'événement Cadences Urbaines, il y aura de la musique dont une nouveauté, un reportage sur l'exposition Anima Ex Musica à voir au Champ Libre jusqu'au mois de septembre et puis une recommandation photo et vélo à deux pas de la gare. Bienvenue dans l'arène.
Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Comme chaque jour, on commence avec l'info du jour retenue pour vous. Alors, je me méfie des inventions dont on pourrait souvent se passer. Récemment, il y a quand même des étudiants rennais qui ont inventé un spray pour conserver les fruits et légumes. Aujourd'hui, je vous parle quand même du lauréat du prix du président de la République, la plus haute distinction du prestigieux concours Lépine. Colin Gallois, il est breton, rennais même, il a 30 ans et avec Lancelot Durand, ingénieur comme lui, il a inventé Drift, un système de freinage adaptable à tous les fauteuils roulants et qui permet par rétropédalage en fait d'éviter les brûlures et les frottements lorsqu'un utilisateur freine avec ses mains. Et oui, lorsqu'on est valide, on n'a pas conscience de ce genre de difficultés. C'est aussi pour ça que je souhaitais en parler aujourd'hui. On rappelle qu'en France, en 2020 en tout cas, 45% des 850 000 personnes en situation de handicap moteur se déplaçaient en fauteuil roulant, des engins manuels ou électrifiés, sachant que ces derniers peuvent coûter jusqu'à 25 000 euros et ne seront remboursés en intégralité qu'à partir de 2024, une promesse présidentielle faite il y a quelques semaines. Avant de remporter ce prix, à l'issue des 12 jours de la Foire de Paris, le système de freinage de Colin Gallois et Lancelot Durand, il avait déjà franchi l'étape de la commercialisation au début de l'année. Les roues, elles sont produites à Bordeaux et l'assemblage, il a lui lieu à Lille. Et une récompense comme ce prix du concours Lépine, eh bien, elle va permettre aux créateurs d'accélérer le développement du produit, de multiplier aussi les lieux de revente en France et en Europe. Et ce système de freinage pour fauteuil roulant, il coûte quand même 2000 euros. Une étude clinique va donc être lancée pour penser la prise en charge du dispositif. Allez, après l'info du jour, c'est l'heure d'une interview. Johan Gageot, Maël Menant et Armel Henry, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes alors pour les deux premiers salariés et pour le troisième volontaire en service civique dans cette association qui s'appelle les Cadets de Bretagne et qui organise un événement Cadences Urbaines. C'est un après-midi dédié à la culture urbaine, aux cultures urbaines, et ça se passe samedi 13 mai de 14h à 21h dans vos locaux qui sont situés rue d'Entrain ici à Rennes. On commence par dire un mot sur cette association. Donc les Cadets de Bretagne, créés à la fin du 19e siècle et qui propose aujourd'hui plein d'activités sportives, culturelles et de loisirs à partir de 2 ans. Qui sont les équipes qui font vivre ce projet aujourd'hui? Il y a donc des salariés dont vous faites partie, des volontaires en service civique, j'imagine aussi plein de bénévoles qui se lancent. Maël.
C'est tout trouvé. Oui, tu l'as très bien résumé. On a une multitude d'acteurs qui font vivre l'association. On peut peut-être commencer par les bénévoles. On peut en répertorier une bonne centaine à ce jour. Et ils sont accompagnés d'environ 20 membres salariés, stagiaires ou volontaires en service civique. Et tout ce petit monde aux compétences assez diverses mais complémentaires participe à la vie de l'association que tu as très bien résumé plus tôt.
Et donc l'éventail d'activités, alors il y a plein de choses qui sont proposées, ça va de la danse aux arts martiaux, en passant par du e-sport, une discipline assez nouvelle, jusqu'à l'éveil de l'enfant, des cours d'anglais. Cet éventail, il reste le même d'une année à l'autre ou il y a des évolutions, peut-être des disciplines qui font leur entrée Johan.
Alors, on a des activités donc de compétition, mais aussi de loisirs. Et c'est cet éventail, on essaie de l'enrichir chaque année. L'année prochaine, on va sûrement ouvrir des nouvelles sections, du basket, de la boxe, mais peut-être aussi de la danse, de l'art créatif. Donc là-dessus, l'association est ouverte à toute proposition. On sonde régulièrement nos adhérents, mais aussi les personnes qui habitent dans le quartier pour savoir quelles activités ils aimeraient avoir. Donc j'espère qu'on répond au mieux aux attentes des pratiquants et des habitants du quartier.
Des adhérents, il y en a plus de 1500 aujourd'hui, c'est ça? Ça commence donc à 2 ans, ça va jusqu'à quel âge?
Eh bien, je pense que que le plus vieil adhérent doit avoir 97 ans au futsal de mémoire. Donc effectivement, c'est on essaie de répondre à tout public de loisirs, de compétition et de faire au mieux quoi.
Et donc pas de limite d'âge, et je me tourne quand même vers Armel, volontaire en service civique. Il y a donc des salariés, des bénévoles qui sont au service des adhérents, et puis des volontaires en service civique. On fait quoi quand on est en service civique chez les Cadets de Bretagne?
Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est service civique aux Cadets de Bretagne? Eh ben moi au départ je me suis engagé du coup pour un service civique en soutien communication. Donc je suis arrivé moi avec rien du tout, je me disais j'ai jamais fait de communication ni rien, que
tout à apprendre.
J'arrive comme ça, tout à apprendre, et puis au final de fil en aiguille ça s'est fait, j'ai appris plein de petites choses, je me suis amélioré, j'ai aidé, et là du coup le plus gros truc sur lequel on est en ce moment et sur lequel on bosse tous, et moi c'est cool parce que j'apprends plein de nouvelles choses, c'est effectivement le festival. Parce que là, j'apprends encore plus à faire des trucs totalement différents. Organiser un festival, pour moi, c'est quelque chose de, pour moi, c'est quelque chose d'énorme. Genre, jamais organisé de festival de ma vie. Peut-être un anniversaire tout au plus, mais.
Donc là, c'est à une autre échelle.
Ouais. Et du coup, je trouve ça génial et ça m'apporte tellement de choses et ça me permet de mieux, en tout cas, trouver ma voie pour la suite et c'est vachement cool.
Donc ça, c'est pour le festival Cadence Urbaine dont on va détailler la programmation dans un instant. Dernier élément peut-être de contexte pour cette association donc des Cadets de Bretagne. J'ai découvert qu'historiquement, c'est une structure en fait qui est une association dite de patronage avec un ancrage catholique. C'est encore une association qui est liée au diocèse d'une certaine manière aujourd'hui. Vous l'expliquez comment ?
Bah effectivement, les murs appartiennent au diocèse, comme la Théâtre Rennes, l'Avenir. Donc il y a 5 associations rennaises qui appartiennent à un patronage. Maintenant, l'identité cadet, on la renie pas. On a l'histoire qu'on a, mais on est ouvert à tous, que ce soit de différentes cultures d'origine ou d'appartenance. Donc, on peut pas renier notre histoire, mais l'avenir fait que on voit aussi un peu plus loin et on est ouvert à tous.
Aujourd'hui, on se retrouve pour annoncer un temps fort de l'association Cadence Urbaine. C'est un événement dédié aux cultures urbaines. On le redit, ça se passe samedi 13 mai de 14h à 21h dans vos locaux qui sont plutôt récents. Ils ressemblent à quoi les locaux des Cadets de Bretagne ?
Eh bien, des locaux tout neufs depuis 2020. On a 5000 m² d'espace de pratique avec sur 3 étages un gymnase neuf pour pratiquer du parcours de la gymnastique gymnique. On a le plateau sportif avec une multitude d'activités, futsal, handball, badminton. On a des salles multifonctions où on va pratiquer plutôt de la danse, voilà, les arts chorégraphiés. Mais aussi, ces espaces-là peuvent être mis à disposition pour de la location. On a aussi un boulodrome intérieur-extérieur. Actuellement, le boulodrome intérieur est mis à disposition pour une association Ride Light Share qui vient faire du skateboard. Et un dojo pour les arts martiaux.
Comment s'est monté cet événement là qu'on annonce? On parle quand même d'une discipline, en l'occurrence de plusieurs disciplines, les cultures urbaines qui ont longtemps été un peu dévalorisées, sous-estimées, et que là vous mettez en lumière donc lors d'un après-midi. L'idée elle est venue de qui?
Eh bien, l'idée, c'est un salarié chez nous qui s'appelle Angelo, qui pratique donc depuis un bon bout de temps le hip-hop, qui est reconnu vraiment nationalement, voire internationalement, qui est venu nous voir en disant, voilà, moi j'aimerais bien organiser les championnats, les qualifs des championnats de Bretagne pour les b-boys et b-girls France.
Donc en breakdance.
En breakdance, voilà. Et puis l'idée elle est partie là-dessus. On a trouvé ça un peu fou au départ, en se disant est-ce qu'on est en capacité nous d'organiser ce genre d'événement. Et puis on s'est posé autour d'une table et on s'est dit ok, mais on va pas faire que du breakdance et on va essayer de représenter un peu ce que c'est aussi que la culture urbaine et les autres sports urbains qui finalement n'ont pas vraiment une place énorme au sein des associations parce que par définition ils se pratiquent plutôt en extérieur et plutôt librement. Donc on a essayé de se dire, voilà, comment on peut au mieux représenter ces disciplines-là, sachant que pour 2024, certaines de ces disciplines vont être au programme des JO.
On les cite, le breakdance, le skateboard et l'escalade qui feront partie du programme des Jeux Olympiques prévus en 2024, l'année prochaine. Ce qui motive l'organisation d'un tel événement, on imagine que c'est aussi d'amener un public nouveau entre les murs du complexe sportif des Cadets de Bretagne, qui est situé, on le rappelle, rue d'Entrain à Rennes. Comment a été vécue cette période de crise sanitaire par l'association, pour ceux qui étaient là en 2020? Est-ce que, comme pour d'autres associations, il y a eu une baisse des effectifs et que vous cherchez à faire revenir les gens dans l'association?
Je pense qu'il y a eu un effet double, parce que la crise sanitaire est aussi arrivée au moment où nous, on emménageait dans un nouveau complexe. Donc c'est vrai que peut-être certaines difficultés se sont additionnées, mais c'est certain qu'on a connu une baisse du nombre d'adhérents à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on est heureux de constater que la courbe s'inverse et on parvient à des chiffres qui nous satisfont pleinement et qu'on espère voir encore grandir.
On arrive au programme de Cadence Urbaine, un événement à vivre samedi prochain. On précise que l'après-midi est gratuit, il y a juste l'entrée pour la soirée là, qu'on va représenter, qui est payante. Dès 14h seront proposés des temps de démonstration et de pratique libre sur plusieurs disciplines, on les cite.
Alors du coup, il y aura du foot freestyle. Donc on a une jeune fille qui vient du Mans nous montrer ce qu'elle sait faire, avec aussi deux frères de Saint-Aubin, du Cormier, qui vont animer cet espace foot freestyle et Pana. Donc le Pana, c'est une arène où il faut essayer de se mettre un petit pont ou marquer un but pour gagner la rencontre. Il va y avoir du basket 3-3, donc ce qui se pratique pas mal au niveau du parc Saint-Cyr à Rennes. Nous allons avoir également une danseuse qui vient faire du dancehall, breakdance, animée donc sur le plateau également. Nous allons avoir une scène ouverte avec des rappeurs qui vont venir de tout horizon. Et donc là, ça va être une belle programmation. Ils sont 5 de mémoire.
Ça, c'est de 14h à 17h.
14-18h, ouais, exactement.
Il est encore possible de s'inscrire si on souhaite participer à la scène ouverte?
Eh ben, sans problème, justement, c'est un petit appel si certains se sentent de venir faire un petit passage sur cette scène, que ce soit chanteur, danseur, c'est une scène ouverte, donc vraiment montrer ce qu'on sait faire, donc il n'y a aucun souci.
Pour vous contacter, on peut vous retrouver sur le site internet cadet.fr. Vous êtes aussi présent sur les réseaux sociaux. Et donc, avec cette grande scène ouverte, vous invitez les structures qui ont des pépites ou des talents chez eux, parmi leurs adhérents, à venir participer à cette scène ouverte. Il y en a quand même beaucoup, des structures dans le coin, enfin en tout cas dans la région Bretagne ou pour le Grand Ouest, sur ces pratiques de cultures urbaines, où il s'agit encore de pratiques qui sont informelles.
Comme l'a dit Johan tout à l'heure, je pense qu'en effet, peu sont les structures qui s'accaparent de ces thématiques-là, mais nombreux sont les jeunes, membres ou pas de ces structures-là, qui s'emploient sur ces disciplines en dehors de tout cadre. Un petit peu, c'est peut-être ce qui pourrait définir ces pratiques-là, c'est le côté non structuré, non formel peut-être. Et donc cette scène ouverte, c'est vrai que c'est l'occasion de pouvoir rassembler toutes ces pratiques, encore une fois, au moment d'un moment convivial et bouillonnant de festivités.
À vivre donc samedi 13 mai dans le local des Cadets de Bretagne, rue d'Entrain à Rennes. Et puis des partenaires ont été conviés plutôt pour un côté spectacle, en plus donc de toutes ces démonstrations en pratique libre qu'on a citées. Il y aura des freestylers, des rappeurs, des graffeurs. Et on retrouvera donc les danseurs sur scène à partir de 19h pour une battle événement. C'est près de 100 danseurs qui sont attendus, qui ne viennent pas forcément que de Bretagne.
En effet, près de 100 danseurs attendus, j'ai plus le chiffre en tête, mais on s'approche, si ce n'est on dépasse ce montant-là. Et donc au niveau des candidats à la qualification, on parle plutôt de danseurs du Grand Ouest, mais Angelo, qui est l'animateur hip-hop de l'association, a aussi convié des guests pour créer entre guillemets des têtes d'affiche au moment de l'événement. Et ceux-ci viennent de plusieurs coins de la France. Je crois qu'on parle d'un Lyonnais.
Il y a un Toulousain, de mémoire.
Parisien également. Donc ça participe à rendre cet événement encore plus inoubliable, on l'espère.
La billetterie, elle est accessible via la plateforme helloasso.com et les tarifs vont de 2 à 5 euros pour assister à cette battle événement organisé à partir de 19h samedi 13 mai. Peut-être une dernière question. Vous attendez combien de personnes là sur cet événement samedi et vous espérez peut-être aussi attirer un public jeune?
Quant au nombre de personnes attendues, c'est une petite inconnue, je pense, pour nous trois. On garde aussi en tête que c'est une première édition qui a vocation à nous roder pour l'organisation plus fréquente de ce genre d'événement. Donc soit une prochaine édition de Cadence Urbaine, soit d'autres événements encore qu'on pourrait imaginer sur d'autres thématiques. Mais comme l'a dit Armel tout à l'heure, ce n'est pas que lui qui fait de l'événementiel pour la première fois, c'est nouveau pour une bonne partie de l'équipe. Et on est en phase de rodage, plus il y a de monde forcément, plus on sera heureux au moment donné, mais... On garde en tête aussi qu'on est nouveau et qu'on se cherche.
On conseille aux auditeurs et notamment aux jeunes auditeurs de venir découvrir toute cette programmation samedi 13 mai de 14h à 21h. Je vous représente tous les trois, Johan, Maël et Armel, membres de l'association des cadets de Bretagne pour les deux premiers salariés et le troisième est volontaire en service civique. Vous organisez Cadence Urbaine, un événement, une première édition qui est dédiée à la culture urbaine. C'est samedi 13 mai de 14h à 21h dans vos locaux. Il y a une possibilité de manger sur place et pour les réservations, en tout cas pour la soirée Breakdance, ça se passe sur la plateforme helloasso.com et puis on peut toujours retrouver plus d'infos sur votre structure sur le site internet cadet.fr et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci de nous avoir reçus.
Magone et le morceau Havana Bay, une nouveauté musicale qui a été repérée par Yann, notre programmateur ici à Canal B. Et c'est un titre que vous pouvez retrouver sur l'album Did You Hear the Kids, qui est sorti le 2 juin en autoproduction avec December Square. Alors Magone, c'est un auteur, compositeur, interprète et producteur israélien installé à Paris depuis qu'il a fui le service militaire obligatoire. Et il a déjà 5 albums au compteur en seulement 4 ans. Vous écoutez Canal B sur le 94.0, peut-être en ligne sur notre site canalb.fr et on passe au reportage du jour. Il s'agit d'un reportage réalisé par Elvire, volontaire en service civique, qui s'est rendue au Champ Libre pour rencontrer Mathieu Desailly. Ce graphiste et plasticien a fondé le collectif Tout reste à faire avec Vincent Gadra, scénographe, et David Chalmin, lui, musicien. Ensemble, depuis 10 ans, ils ont construit Anima Ex Musica, 14 insectes et arthropodes conçus à partir d'instruments de musique. Le tout est exposé au Champ Libre jusqu'au 3 septembre 2023 dans une scénographie surprenante. Pour plus d'infos, il y a le site leschampslibres.fr et on ne l'a pas dit, mais c'est gratuit.
Pour commencer la visite, c'est une exposition très sonore, on l'entend derrière nous. On rentre dans une alvéole, des alvéoles d'abeilles, de ruches. Et dans chaque alvéole, on va découvrir des espaces, des créations, des installations sonores autour des vents, autour des cordes ou autour des tambours et des batteries. Le principe étant qu'à l'entrée de l'exposition, vous avez deux espaces pour un petit peu tout comprendre. Et ensuite, c'est plutôt une visite immersive. Vous rentrez dans notre forêt, dans notre bestiaire utopique, dans un monde infiniment petit qui devient infiniment grand et qui va vous raconter et développer ce que sont les arthropodes, les crustacés, les insectes, les myriapodes et les araignées. Il y a 14 œuvres ici présentes au Champ Libre et on commence. Je suis Mathieu Desailly, je suis au départ graphiste et par la nature de ce projet, je suis devenu plasticien. Et je travaille avec Vincent Gadras, qui par ailleurs est scénographe, et David Chalmin, qui lui est compositeur et musicien.
Nous sommes aujourd'hui au Champ Libre pour l'exposition Anima Ex Musica que vous avez faite à trois avec le collectif Tout reste à faire. Mm-hmm. Est-ce que peut-être vous pouvez nous dire comment est né ce projet ?
Alors ce projet, il est né comme tout projet d'une porte qui était coincée et d'une autre qu'il fallait ouvrir à la place. Le dispositif tel qu'il existe aujourd'hui n'a pas été fomenté dès son départ de cette façon-là. Il y a eu une création, ensuite il y a eu tout un concours de circonstances qui ont fait qu'on en a fabriqué un second. Et ensuite, ce que je peux juste vous dire, c'est que est né dans mon esprit entre Saint-Étienne et Clermont-Ferrand, dans un virage avec Vincent Gadras qui était au volant, l'idée, je me rappelle très bien, de se dire bon, on en a fait deux et pourquoi pas d'autres. Et le mot bestiaire utopique est arrivé comme ça. Ça nous a excités, enthousiasmés, on a eu souhait de prolonger, on a commencé à travailler sur une troisième pièce qui était la Dolomède, qui est la seule pièce qui n'a pas été fabriquée en public avec le scarabée, puisque depuis, le dispositif fait que nous partageons ce moment un peu particulier de déconstruction, de reconstruction et de création, in fine, devant les gens, dans les lieux qui nous accueillent. Donc c'est une puce qui a été réalisée avec 52 guitares. Pour l'abdomen, il s'agit de guitares plutôt acoustiques, et pour les pattes, de 36 guitares électriques. Pour le haut des cuisseaux, on a travaillé avec des congas. Pour la tête, on travaille avec un luth vietnamien. Voilà. Le principe pour chaque création que nous faisons, c'est de définir un instrument un peu clé, qui va donner un peu la couleur, la note. Ici, c'est la guitare. En face, on a un phasme ailé et on est clairement en présence d'éléments d'accordéon et de deux congas. Entre les deux, on a une installation sonore trompette. Ce sont les trompettes qui ont été disposées un peu en cornet. Et en vis-à-vis, le trio hiatus qui, lui, a été réalisé avec des instruments de fanfare et de tambour. Et on trouve ça assez beau de faire correspondre la source originelle et l'animal devenu. Voilà. On continue ?
Philosophiquement, je trouve ça intéressant de présenter deux mondes qui ne doivent pas se croiser. Mettre Christine Rollard et Bertrand Chamaillou en vis-à-vis autour d'une table, ça m'excite un peu parce que un est un grand pianiste et fait le tour de la planète. Et puis de l'autre, Christine Rollard parcourt la planète pour aller voir et chercher une nouvelle araignée. Rien à voir, ça c'est assez intéressant. Après, plus sérieusement, au départ, on ne savait pas qu'on allait être que sur les arthropodes, mais si on analyse un petit peu ensuite plus à fond, arthropode, ça vient du grec, ça veut dire articulation, et insecte, ça vient du latin et ça veut dire section. Ce sont des créatures qui grandissent avec des exosquelettes. Ils n'ont pas comme nous des os et de la chair et du muscle autour. Eux, c'est leur carapace qui est solide. Et pour se mouvoir, pour se déplacer, ils ont besoin de petites pièces mécaniques entre chaque portion de leur corps et qui vont faire que pour ramper, pour se déplacer, il va y avoir des rotules. Un homme, lorsqu'il fabrique un instrument de musique, il a nécessité de faire passer de l'air, de faire gratter une corde, de la pincer ou de la frapper. Et pour ce faire, il va fabriquer aussi des mécaniques, parfois extrêmement complexes. Il n'y a qu'à ouvrir un harmonium ou l'intérieur d'un accordéon pour être assez effrayé sur ce que l'homme est capable de faire pour produire le son.
Là, vous me voyez un peu venir, mais il y a deux pistes. Il y a un peu une mécanique animale et puis il y a une mécanique musicale. Et se faire rencontrer ces deux mécaniques-là, somme toute, là, ça devient déjà beaucoup plus naturel. Et puis en observant aussi, parfois dans la nature, une patte d'un arthropode extrêmement compliquée ou supposément compliquée, quand on observe une portion de clarinette, on se retrouve aussi avec des éléments extrêmement compliqués. Donc ces deux complexités-là, elles peuvent se rencontrer et à un moment, elles peuvent être validées par le visiteur qui va se dire mais oui, pourquoi pas. Et nous, les premiers. Et d'ailleurs, c'est en ça que le projet avance aussi lentement. Le dispositif tel qu'on le pratique consiste à ne pas trop démonter. Il faut absolument que l'instrument de musique, dans sa représentation, continue d'évoquer qu'il est instrument de musique. Et puis après, pour finir, si on travaillait avec des vélos ou des grille-pains, je pense qu'on n'aurait pas du tout cette poésie. Parce que là, au final, pour les rendre vivants, on leur associe une musique. Et eux-mêmes, avant, étaient instruments de musique. Donc il y a une espèce de chambre d'écho là, intellectuelle qui est très intéressante. Et bon nombre de visiteurs, d'ailleurs, posent toujours la question de savoir si c'est les arthropodes qui jouent. Les pauvres arthropodes, dans l'état où étaient les instruments de musique, ça fait belle lurette qu'ils ne jouent plus. Mais qui est cette ambiguïté-là et qu'on puisse se questionner là-dessus, je trouve que là, on touche au cœur du dispositif.
Ici, on entend le doryphore. Il y a des petits poufs autour et on peut venir un peu se faire bercer et participer. David Chalmin, qui a composé la musique, lui, il parle du vol du doryphore. C'est une petite musique un peu planante. Et ce serait un doryphore qui serait en capacité de pouvoir voler. Il a été réalisé avec 12 pianos. C'est la grosse pièce, c'est la plus grosse. Les enfants aiment toujours savoir le plus long, le plus gros, le plus lourd. Là, c'est la plus grosse. Voilà, il fait 130 kilos et il se promène de pied de patate en pied de patate. Sauf que nous, il arrive à voler. Voilà, il est beaucoup plus léger.
Comment est-ce que le processus de création se fait pour les créatures du coup ?
Alors j'ai un peu ma réponse toute faite, mais des fois c'est la poule et des fois c'est l'œuf. Voilà. Des fois vous avez un insecte dans une boîte, un méga pomponia, et waouh, vous sortez le carnet de croquis, vous commencez à croquer, en tout cas ça se passe comme ça chez moi, et puis vous dites que les ailes vous pourriez les faire avec des archets, que le corps ça pourrait être des portions de violoncelle ou des portions d'alto, et puis là d'un seul coup, donc là l'insecte va dicter un peu sa loi. À d'autres endroits, c'est la poule. On a plein d'instruments de fanfare. On avait plus d'une trentaine de tubas, de cordes, de tambours. Et là, on se met en quête et je commence à ouvrir des catalogues d'entomologie et je cherche un insecte doré, un insecte avec des éléments ou des portions anatomiques qui pourraient faire penser à un coude de saxophone, à un piston de trompette, etc. Et là, là, le dispositif, c'est j'ai les instruments et je me dirige vers un insecte. Donc c'est ce dialogue, enfin c'est ces deux façons d'appréhender le sujet qui font qu'après, quand nous fabriquons, il y a toujours un discours entre l'animal tel qu'il est, ses proportions, ses couleurs parfois, et puis l'instrument qui revendique aussi sa forme, son aspect, sa couleur et même sa fonction. Par exemple, le béloé a pour antenne des baguettes de tambour parce que tout l'ensemble est constitué par des batteries, alors que le bon sens aurait voulu, par rapport à son anatomie première, que nous fassions des antennes très proches de ses pattes, c'est-à-dire avec des éléments de charleston et des éléments de clarinette. Mais je voulais, et je trouvais ça assez pertinent, qu'à un moment, la batterie retrouve aussi son identité de batterie. Or, une batterie, c'est des gros fûts et à un moment, des baguettes. Et donc là, les baguettes deviennent antennes.
Comment est-ce que vous faites pour travailler donc avec Vincent Gadras et David Chalmin pour aussi garder vos spécificités et travailler ensemble ?
Alors, c'est un tricot. Si vous retirez un des trois dans le dispositif, ça marche beaucoup moins bien. Je commence avec mes croquis, je vais chercher les instruments. Souvent, c'est moi qui explique à Vincent un peu l'idée que j'ai derrière la tête. Et puis lui va s'emparer de ce début, de cet embryon de construction et il va commencer à assembler. Donc lui, il commence à faire une charpente, il commence à faire un squelette. Il a plaisir à dire que son travail ne se voit pas. Mais pour moi, il est libérateur parce que d'un seul coup, il me permet de faire l'acte 1. L'acte 2, c'est qu'on a déjà un corps ou un début de thorax et donc on va pouvoir réfléchir à la tête. Alors pendant qu'il est en train d'assembler, moi je suis en train de cavaler à côté et de chercher est-ce que ce sera plutôt un bongo, une caisse claire, etc. Et donc ça va être une partie de ping-pong jusqu'à quasiment la finalité de l'objet. En général, c'est moi qui finis un peu sur l'ornement. Et puis ensuite, dans un troisième temps, là quand on a fini avec Vincent travaille ensuite sur la motorisation. On travaille ensemble aussi pour présenter l'œuvre. Est-ce qu'on la suspend? Est-ce qu'on l'accroche? Est-ce qu'on la met verticale? Est-ce qu'on la couche, etc. Donc ça, on va chercher ensemble. Ensuite, c'est lui qui fabrique, qui anime. Et ensuite intervient seulement à cet endroit-là et à ce moment-là David qui vient enregistrer des couinements, des bouts de mécanique déjà qu'il entend sur l'œuvre. Il vient aussi des fois tapoter un petit peu et faire résonner l'animal. Et là, à partir de là, lui, il s'en empare, il travaille en studio et il nous fait des propositions, parfois une, parfois plusieurs. L'œuvre est terminée quand d'un seul coup on charge le son dans la bête. C'est-à-dire que non seulement elle est finie, elle bouge et en plus elle a un cœur, elle palpite, quoi.
On va rentrer dans le cœur de la ruche. Là, on est dans une forêt de cordes. Et le dispositif central, c'est plein de violons, d'alto, de violoncelles et une contrebasse. C'est un petit peu notre forêt de bois. Et autour, 3-4 insectes. On a l'Oxynopterus odouini. Et puis de l'autre côté, le méga pomponia, une cigale géante de Bornéo. Ici, il y a 6 contrebasses pour essayer de traduire cet insecte. Et puis la cigale, c'est un développement autour des archets pour pouvoir exprimer les grandes ailes de cet oiseau.
Est-ce que votre volonté, c'est de coller à l'anatomie de l'animal que vous allez interpréter, ou le but, c'est justement de pouvoir avoir une création qui soit plus abstraite?
L'interdit, c'est la chimère totale. Ça voudrait dire qu'on prend plein d'instruments de musique, on fabrique un gros bigoudin complexe et personne n'a de référence, personne ne sait d'où ça vient. Ça a plutôt été évacué et assez stérile. Et puis en plus, je pense qu'on serait un peu perdu. On a entre 3 et 4 millions d'espèces d'arthropodes, donc on a de quoi se nourrir. Il y a du matos, là, on peut vraiment s'alimenter. Après, il va y avoir une première étape qui est un peu celle des proportions. Pour vous faire croire que c'est une puce, il faut quand même un peu observer sa longueur, sa largeur. Une fois que le précepte un peu naturaliste est établi, ensuite, le travail peut-être plus artistique de création, ça va être de s'emparer des bons instruments, déjà de corréler ce qu'il pourrait faire. Et ensuite, vous êtes obligé de vous émanciper du modèle. Mais ça, c'est un dispositif dans l'histoire des arts qui a toujours existé. À chaque fois, l'homme s'inspire et puis il s'émancipe du modèle et puis il fabrique et il crée. D'abord, on est très influencé, très impressionné, surtout plus jeune, par ce que font les autres. Et puis ensuite, parce que nous donne à voir la nature. Enfin, c'est notre cadre de vie, notre environnement. Alors, je trouve ça assez beau qu'en rentrant dans notre espace, qu'un enfant puisse identifier une sauterelle. Et ça va nous faire partager quelque part quelque chose, ensemble, du commun.
Est-ce que le fait de faire aussi des créatures qui vont être plus grandes que l'infiniment petit dont elles peuvent faire partie, ça permet justement de créer ces communs-là avec les visiteurs, les visiteuses?
Alors je ne sais pas si ça fabrique le commun, mais ce que ça fabrique, c'est qu'il y a une distorsion telle que finalement il y a une acceptation. Parce que le souvenir que vous avez, vous, des sauterelles et des coccinelles de votre enfance ou des petites fourmis, font que vous êtes un peu moins sûr de vous, je pense, que pour un cheval ou un chien. Donc on peut se permettre un peu de vous raconter un truc qui ressemble un peu, mais qui n'est pas totalement vrai. Et puis je pense que cet infiniment petit devenant infiniment grand, déjà l'échelle, elle est liée à l'échelle humaine. C'est-à-dire qu'on travaille avec des instruments de musique. Notre matériau, il est fabriqué par l'homme. Donc on donne à voir un monde inconnu, invisible quasiment, parce que très petit ou parce qu'en voie de disparition, parce que si on ne fait pas attention. Ce changement d'échelle participe à la poésie, participe au choc. Je pense que si nous travaillions sur des gros mammifères, et qu'on faisait les mammifères à échelle 1, un dauphin fait avec je ne sais pas quel matériau, enfin moi, ce n'est pas dans ma poésie, ce n'est pas ça qui m'emporterait.
Pourquoi c'était important cette dimension immersive de votre exposition ?
D'abord parce que c'est la première occasion qu'on a de pouvoir le faire. Donc les champs libres nous ont donné un cube sombre, une boîte noire de 450 mètres carrés. Chose qui jusqu'à présent n'était pas arrivée. On a été dans des châteaux, on a été dans des salles polyvalentes, dans des abbayes, dans des musées. Et donc on devait faire face à l'existant et au lumineux. Moi, depuis longtemps, je voulais qu'on parle des souterrains, qu'on parle du sous-bois, qu'on parle de la pénombre, qu'on parle un peu des monstres. Donc là, c'était enfin l'heure pour nous de présenter ces monstres dans une ambiance un peu de sous-bois, un peu de frisson. Ce manque de lumière fait que le peu d'éclairage les transforme aussi un peu dans un écrin, un peu de bijoux. Il y a quelque chose aussi qui est à la fois ça les mystifie et en même temps ça les magnifie. Et en même temps, dans cette crypte, d'un seul coup, ils se mettent à jouer. Et puis il y a aussi quelque chose qu'on a constaté qui est très fort, c'est que quand vous avez beaucoup de lumière, vous écoutez beaucoup moins le son. C'est vos yeux qui prennent le pas. Écoutez la radio la nuit, on est beaucoup plus attentif. dans cette exposition, le fait qu'on mette très peu de lumière, le visiteur, il est obligé de faire attention beaucoup plus. Comme ses yeux voient mal, il va se servir davantage de ses oreilles. Et il va être beaucoup plus à l'écoute de nos sons et des propositions que fait David.
Mistakes Were Made For You par The Last Shadow Puppets à l'instant sur Canal B, un morceau à retrouver sur l'album The Age of the Understatement sorti en 2008. C'est le premier disque à l'époque du duo composé d'Alex Turner et Miles Kane. Le premier, il officie avec les Arctic Monkeys et le second, il a fait partie du groupe The Rascals. Après ce premier opus, un second album a vu le jour en 2016 avant que les deux artistes britanniques ne retournent à leur projet, collectif pour l'un, solo pour l'autre. Vous êtes dans l'arène, l'émission d'information locale de Canal B et on va poursuivre et terminer avec la recommandation du jour. Et oui, à chaque fois en fin d'émission, je vous recommande des choses à écouter, à vivre, à lire. Là, il s'agit d'une exposition à découvrir qui s'appelle Vélographie. Une exposition qui met à l'honneur les passionnés de la petite reine du vélo, quoi. C'est à voir depuis le 4 mai et jusqu'au 6 juin dans la station de métro Gare et à la Maison du Vélo qui est tout près de la gare à Rennes. Et aux manettes, on retrouve Loïc Morceau, un réparateur de cycles à domicile. Il est rennais et passionné de photographie. Et Vélographie, eh bien, c'est une trentaine de portraits en noir et et blanc qui mettent en scène des habitants de la métropole et leurs compagnons de route. Des clichés qui ont été pris dans le cadre de l'activité professionnelle de Loïc, qui rend ainsi hommage à la diversité humaine qu'il croise dans son quotidien, également à la simplicité d'un objet du quotidien sous toutes ses formes. L'exposition, elle est en accès libre. Elle se déploie sous deux formats. D'abord, des grands portraits affichés à l'intérieur de la station de métro-gare, puis des portraits en miniature qui attendent le public dans la Maison du Vélo. Maison du Vélo qui, on le rappelle, émane du STAR, le service de transport de l'agglomération rennaise et de la métropole, et qui propose donc des services de location au 15 bis place de la gare. Depuis le 15 avril et jusqu'au 15 octobre, pour info, ce lieu est ouvert tous les jours de 9h à 19h30. Pour plus d'infos, il y a le site internet star.fr. L'arène, c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h et puis en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour les podcasts, ça se passe sur le site canalb.fr. Je vous dis à très bientôt sur Canal B.